Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Comme chaque mois, nous vous proposons un entretien avec Ludovic Mendès, le député de la circonscription de la radio. Et cette fois-ci, nous allons aborder le rapport et la préparation de la loi sur le narcotrafic et le crime organisé qu'a réalisé Ludovic Mendès en collaboration avec un député LFI, mais aussi l'affaire Betaram, comme la défense européenne et son financement. Monsieur le député, la dernière fois, vous nous avez partagé des perspectives d'emploi du temps assez chargées pour le mois de février. Pouvons-nous passer en revue tout ce que vous avez pu faire, notamment le rapport sur le narcotrafic et le crime organisé, entre autres choses, et un éventuel voyage au Portugal? Enfin, voilà, je vous laisse parler.
Bonjour, le voyage au Portugal ne s'est pas fait, et tant mieux, parce que ça m'a permis de me reposer et de préparer la loi sur la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé. Et on a présenté donc avec mon collègue de la France Insoumise, Antoine Léaumont, notre rapport sur l'évaluation de la politique de lutte contre les narcotrafics le 17 février en commission des lois, et qui, comme je pense tout le monde a pu le voir, a beaucoup fait parler, étant donné qu'on a fait plus de 60 propositions, dont certaines propositions qui proposent de changer de paradigme. Parce qu'aujourd'hui, on part du principe que, au vu de l'évaluation que nous avons fait, ça ne suffit pas et ça ne fonctionne pas.
Vous pouvez nous en parler davantage. Les principales propositions
qui... Il y en a plus de 60. En fait, celles qui ont fait beaucoup parler, c'est la légalisation du cannabis, donc l'encadrement du marché du cannabis et la dépénalisation des drogues. Pourquoi on fait cette proposition, qui aujourd'hui est soutenue d'ailleurs par la Fédération Addiction, tous les addictologues de France, beaucoup de médecins et de pharmaciens, qui se sont rendus compte que accompagner le consommateur, ça ne veut pas dire le pousser à la consommation de drogue. C'est justement le retirer d'un marché dit illégal, d'un marché qui est capitaliste, comme une entreprise, dont le seul objectif c'est de gagner de l'argent. Et en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse prendre en charge les personnes comme des personnes malades, qui ont besoin d'être accompagnées d'un point de vue médico-social. Alors, c'est pas le cas pour le cannabis, parce qu'on n'a pas les mêmes impacts aujourd'hui que sur la cocaïne, sur l'héroïne ou la MDMA. Mais quand on voit les chiffres, qui sont qu'un Français sur deux a déjà consommé du cannabis, qu'environ 10% de la population consomme régulièrement, 5% quotidiennement. On parle de millions de Français, on parle pas simplement d'une centaine de Français. Quand on voit que la consommation de cocaïne sur les 5 dernières années a augmenté de 220% et que la consommation de MDMA ecstasy a augmenté sur les 8 dernières années de 800%, on se dit que la seule chose à faire, c'est de les prendre en charge. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits addictifs, très addictifs, et quand on rentre dans cet engrenage-là, on a du mal à en sortir. D'ailleurs, on a des personnalités connues dans notre pays qui font des allers-retours en cure de désintoxication, et on a la sensation qu'en fait, on a fait une cure de 6 semaines et derrière, on va mieux. Non, ça prend du temps. Et moi qui travaille de plus en plus avec justement des addictologues ou des personnes qui accompagnent d'un point de vue médico-social sur Paris, sur Strasbourg ou ailleurs, ces consommateurs, ils nous expliquent que c'est un travail de longue haleine. Parfois, c'est un travail qui est fait sur 2-3 ans. Et ce n'est pas en victimisant le consommateur et en partant du principe qu'il est complice du narcotrafiquant qu'on va y arriver, parce qu'en fait il est victime du narcotrafiquant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu des vidéos de personnes qui se faisaient agresser violemment, on a vu des personnes qui sont des oréunomanes, des cocaïnomanes, à qui on envoie des SMS en disant qu'il y a des nouveaux produits sur le marché, qu'on peut leur faire tester gratuitement. Donc ça prouve bien qu'en fait le seul objectif c'est de gagner de l'argent, et qu'aujourd'hui un narcotrafiquant est capable de perdre 75% de sa cargaison et gagner de l'argent. Et je connais aucun artisan, aucune entreprise française ou même dans le monde qui est capable de perdre 75% de ses stocks et de se dire je gagne très bien ma vie. Là c'est ce qu'il se passe, parce qu'en plus, ce sont des produits qui sont souvent frelatés, qui sont modifiés, qui sont coupés. Et à partir de là, il y a des risques pour la santé publique. Et nous, notre seul objectif, c'est de travailler sur la sécurité pour taper très fortement contre les groupes de narcotrafiquants. Mais il nous faut aussi un message de santé publique, de prévention, d'accompagnement pour sortir ces personnes de la consommation permanente de ces drogues. Et après, il y a un autre débat qui se pose sur le cannabis. Et pourquoi on fait cette proposition-là? C'est pas qu'on veut pousser les gens à consommer du cannabis, c'est qu'on veut mieux protéger les mineurs, on veut mieux protéger le consommateur. Et si on assèche d'environ 60% le marché des narcotrafiquants, alors on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir leur faire plus de mal que simplement les mettre en prison. Et on aura plus de moyens aussi pour pouvoir justement lutter contre ces narcotrafiquants qu'on estime à je ne sais pas combien en France, parce qu'en fait la réalité c'est qu'on ne sait pas, et que dans la presse locale, la semaine dernière, on pouvait démontrer que certaines personnes n'étaient pas des narcotrafiquants, mais étaient des petits dealers de passage pour se faire un peu d'argent de plus tous les mois, et puis on se fait livrer à la maison, on n'achète plus de la même manière. Donc il y a une réalité qui est que la politique fonctionne parce qu'on met des gens en prison, mais elle ne fonctionne pas parce qu'en fait la consommation est en hausse permanente depuis plus de 30 ans, et que l'arrêté complémentaire, c'est qu'aujourd'hui on est sur un marché mondial. Et à partir de là, la France seule dans son coin, elle ne pourra pas régler les choses dans son coin. Donc on propose un changement de paradigme. On se dit que si la même politique qui est menée depuis 30 ans ne fonctionne pas, pourquoi on n'en ferait pas une autre? Et en termes de politique publique, pour nous, la priorité, c'est la santé publique. Et oui, on peut m'expliquer qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui utilisent des armes, qu'on a malheureusement des dommages collatéraux du narcotrafic à Marseille, à Grenoble ou ailleurs. Mais s'il y a autant de dommages collatéraux, c'est parce que justement cette politique ne fonctionne pas et que le marché est est tellement intéressant pour eux et tellement vertueux financièrement qu'ils n'ont pas envie de s'en détacher.
Sur le volet santé, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle de ce qui a pu être fait au niveau du tabac, au niveau de l'alcool ?
Alors, deux choses. Il y a l'accompagnement qui est très bon au niveau du tabac et de l'alcool. Et encore, c'est assez compliqué aujourd'hui de trouver de quoi être accompagné correctement. Au niveau du tabac, juste la hausse du prix du tabac a permis de limiter une partie de la consommation. Mais quand on est addict au tabac, parce qu'on a une véritable addiction au tabac, la nicotine fait des ravages. D'ailleurs, je rappelle juste que quand on consomme un joint de cannabis, ce qui fait le plus de mal, c'est pas le cannabis en lui-même, mais c'est le tabac qu'on va mettre à l'intérieur et qu'on va cramer. Sur l'alcool, ça marche plutôt bien quand on est pris en charge. Mais on a une surconsommation d'alcool dans notre pays. Ça tue des centaines de milliers de Français chaque année. Pareil pour le tabac. C'est des dizaines de milliers, je crois qu'on a 75 000 à peu près, dû à des cancers, dû à des problèmes cardiovasculaires. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une contrebande sur le tabac parce que le prix du tabac est trop cher par rapport à nos voisins européens. Alors, il y a la contrebande et en même temps, il y a le fait d'aller acheter à droite et à gauche du tabac moins cher. On est mosellan, on sait très bien que beaucoup de personnes vont des fois en Belgique, au Luxembourg ou même en Allemagne pour acheter son paquet de tabac. C'est pas de la contrebande, mais ça prouve bien que selon où on est installé en France, on va trouver une autre façon de pouvoir consommer. Mais la sécurité sociale a mis en place des systèmes qui permettent d'accompagner, de se sevrer du tabac, parce qu'on parle bien d'un sevrage au tabac, et que le tabagisme aujourd'hui crée tellement de dégâts dans notre pays qu'on n'a pas le choix de le faire. Et on n'a pas les mêmes problématiques avec certaines drogues, mais on en a beaucoup d'autres, avec la cocaïne, avec le crack, avec l'héroïne. Et ce débat aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que la dépénalisation va pousser à la consommation, ou la dépénalisation va pousser à protéger le consommateur ? Dans notre objectif, et d'après ce qui est dit par les médecins, les addictologues, et j'ai pu débattre d'ailleurs sur un plateau France 3 il n'y a pas si longtemps avec qualifié sénateur docteur. Et le docteur Paille, qui lui représentait la fédération Addiction, et nous expliquions que la seule façon d'aujourd'hui de prendre en charge ces personnes, de les sortir, c'est de dépénaliser, parce que la pénalisation aujourd'hui, c'est on se retrouve en garde à vue, potentiellement devant un juge, mais on croise jamais de médecin. Et on a plein de témoignages de personnes qui font des allers-retours en prison, et même en prison. Il n'y a pas de sevrage mis en place, parce qu'on n'a pas de spécialiste pour les accompagner, et à partir de là, ça ne peut pas fonctionner. Donc ils sortent de prison, ils recommencent. Et in fine, ils marginalisent. Donc il y a un problème social qui se renforce, et on a pu aussi démontrer que plus il y avait une forme de pauvreté ou une forme d'éloignement culturel, plus il y avait de consommation de produits stupéfiants ou de tabac ou d'alcool. Donc il y a un travail de fond à faire et c'est pour ça que je parle bien d'un accompagnement médico-social et pas simplement d'un accompagnement médical.
Justement, le docteur Califé, il était d'accord avec vous ?
Alors docteur Califé a dit qu'il n'était ni d'accord ni en désaccord, mais que c'était peut-être pas le bon message à faire passer en ce moment quand on luttait contre les narcotrafics. Et justement, ce qu'on dit nous, c'est que c'est un double message qu'on doit faire passer. Un message de fermeté et de dureté envers les narcotrafiquants et de renforcement de la loi pour que l'État puisse prendre le dessus sur le narcotrafiquant, et en même temps un message d'accompagnement, de prévention auprès du consommateur. Donc on peut faire les deux en même temps. J'ai l'impression que dans notre pays, la seule chose qui intéresse parfois, c'est soit on fait de la répression, soit on fait du social. Il faut faire et de la répression et du social en même temps. Et si on veut protéger ces mineurs qui aujourd'hui sont enrôlés de force, qu'on pourrait appeler les malgré eux, justement dans ces réseaux criminels, parce que quand on voit les vidéos de certains gamins de 12 ans qu'on est en train de tabasser dans une cave parce qu'on leur laisse pas le choix que de rentrer dans le système du narcotrafic à Marseille, et bien je pense qu'on pourra mieux les protéger demain. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on propose de mieux accompagner sur les territoires, de mieux accompagner d'un point de vue social ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas vocation à être dans ces marchés-là, mais qui se retrouvent de fait. Alors certains l'ont choisi, je ne dis pas le contraire, mais malheureusement, ils sont une minorité. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les dégâts que ça peut faire, ça ne permet pas de pouvoir enrayer le phénomène sur la durée. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que depuis 30, 40, 50 ans, ça ne change rien. Et la dernière loi, elle date de 72. Et depuis 72, on ne fait que consommer plus qu'avant. Donc il y a un vrai travail de fond que nous devons mener par rapport à ça. Et au-delà de ça, le plus gros des sujets, c'est le blanchiment d'argent, donc la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de la corruption à tous les niveaux, que ça soit sur les ports avec des douaniers ou des dockers, ça peut être parfois des greffiers dans des tribunaux. Il y a prochainement un jugement qui va s'ouvrir sur des assistants de police qui venaient de Cayenne en Guyane, qui se sont fait attraper parce qu'en fait, ils faisaient passer eux-mêmes la cocaïne dans l'aéroport. Donc ça prouve bien qu'il y en a à tous les niveaux. Et quand j'étais en Guyane au mois de décembre, on me disait qu'il y avait des élus, des maires, des adjoints aux maires qui étaient tombés, des agents de police, des gendarmes. En fait, c'est assez facile aujourd'hui. On vous demande de laisser votre passe pour un chèque de 100 000 euros, du moins pour 100 000 euros en liquide, que vous n'avez à déclarer à personne. Pour certaines personnes, c'est assez facile. Mais une fois qu'on est rentré dans le système pour la première fois, à la fin, on devient victime du système parce qu'on veut toujours exploiter vos capacités et à la fin, on menace vos familles, on vous menace vous-même et il n'y a plus d'histoire d'argent. Donc ça vient de la corruption différente et nous, on a besoin de protéger les personnes qui veulent parler. On a des avocats qui aimeraient aussi dénoncer parfois certains actes parce qu'ils ont eu affaire à à des dossiers particuliers qui ne le peuvent pas le faire aujourd'hui. Mais tant qu'on ne luttera pas correctement contre le blanchiment d'argent et la corruption, alors on n'y arrivera pas. Donc il faut renforcer notre arsenal juridique, et ça fait partie des propositions que nous avons faites. Et le dernier point que moi j'aimerais valoriser aussi, c'est qu'il faut sécuriser nos ports aujourd'hui, parce que c'est très bien de sécuriser le port du Havre ou de Marseille, parce que ce sont les deux plus grands ports français, mais quand on voit que ça passe maintenant par Dunkerque, Gravelines, La Rochelle, des petits ports de plaisance, on se dit qu'il faut des scanners un peu partout, non pas pour fliquer l'ensemble des Français, mais pour faire en sorte que quand il y a des livraisons de cargaison, on puisse faire attention. D'ailleurs, à Dunkerque, ils ont attrapé un conteneur avec 10 tonnes de cocaïne, ce qui est énorme, 10 tonnes de cocaïne. On n'imagine pas que 10 tonnes de cocaïne pure, c'est l'équivalent de 40 tonnes sur le marché. C'est énorme, parce que c'est coupé 4 fois. Et on a pu aussi constater que parfois, sur 600 passagers dans deux avions qui vont de Cayenne à Paris, on a 200 mules. 200 mules, c'est 1 kilo par mule. Et ce sont des personnes qui vont ingurgiter des boulettes de cocaïne. Et certains, c'est entre 800 grammes et 1 kilo. Donc on a 200 kilos qui se baladent dans un avion. Donc c'est assez facile pour eux aujourd'hui d'organiser, j'allais dire, la désorganisation de la sécurité intérieure. Pourquoi ? Parce que quand vous avez sur 600 passagers, 200 qui sont porteurs de cocaïne, c'est compliqué à gérer d'un coup, parce que c'est un tiers des vols. Et en même temps, on ne va pas mobiliser 500 agents des douanes, 500 gendarmes ou 500 policiers de l'OFAST juste pour accueillir deux avions. Donc ce n'est juste pas possible. Et en l'état, ils ont compris que s'ils saturaient le système, c'était facile de pouvoir envoyer de la cocaïne. Et la cocaïne aujourd'hui, quand elle ne passe pas par la France, elle passera par le port d'Anvers, qui est le port le plus corrompu d'Europe. Elle passera, si possible, par l'Espagne, par l'Italie. Elle passe par l'Afrique maintenant. Donc ils ont trouvé des moyens de contourner tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut leur donner les moyens de pouvoir mieux sécuriser les systèmes, de mieux les infiltrer. Mais pour autant, on ne doit pas perdre nos libertés fondamentales. Et c'est la limite sur ce texte narcotrafique sur lequel nous sommes en train de parler. C'est de savoir si nous sommes prêts à perdre une partie de nos libertés fondamentales, parce qu'on va être potentiellement plus surveillés, ou alors on veut renforcer correctement la lutte contre le narcotrafic, mais pas contre... j'allais dire, c'est une minorité, et on ne veut pas que ça puisse impacter la majorité des Français.
Vous pouvez peut-être nous préciser, parce que c'est quand même un dossier qui vous a tenu à cœur, sur lequel vous avez travaillé de longs mois, ce que ça représente comme travail.
Bon, je crois que c'est compliqué de pouvoir le quantifier, mais c'est des heures d'audition, c'est des heures de rencontres, que ce soit en direct ou en visioconférence, c'est des déplacements dans les tribunaux, en Guyane, c'est des rencontres un peu partout sur le territoire. Alors moi, j'ai passé un peu moins de temps sur la mission que mon collègue Antoine Léaumont, parce que pour expliquer rapidement ce qu'on m'a reproché aussi d'avoir fait cela avec la France Insoumise, je ne choisis pas mon co-rapporteur. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il y a une mission d'information qui est lancée, il y a toujours un membre de l'opposition, un membre de la majorité. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que ça permet d'avoir une équité de traitement et une égalité face à cette mission qui nous est confiée. Et de garantir une forme de neutralité. Et il est certain que moi et la France Insoumise, on n'en partage pas beaucoup de points de vue. D'ailleurs, je crois que j'ai été suffisamment dur avec eux à plusieurs reprises. Comme j'ai pu me faire une mission sur l'accueil de l'Ocean Viking avec à l'époque Julie Le Chanteux, qui est une députée du Rassemblement National, et ça posait pas de problème. Pourtant, on parle bien de l'accueil de personnes en situation de dérive en Méditerranée sur un parcours migratoire. Donc il y a plusieurs réalités à prendre en considération. C'est 17 mois de travail pour Antoine Léaumont parce qu'il a changé 3 fois de co-rapporteur. C'est plus d'une centaine d'auditions, c'est 40 contributions écrites. C'est des déplacements en France, c'est des déplacements en Guyane, sur le territoire donc métropolitain et sur le territoire des Outre-mer. Et c'est aussi un droit comparé avec l'Union européenne, avec le reste du monde, ce qui nous a permis de comprendre ce qui marchait ou qui ne marchait pas au Canada, aux États-Unis, en Uruguay. C'est là qu'on a pu se rendre compte que la politique de dépénalisation fonctionnait très bien au Portugal. Donc on prend exemple sur beaucoup de pays autour de nous, et même plus loin que nous. Mais l'idée de cette mission, c'est à peu près 6 mois de travail. C'est complémentaire à la commission d'enquête qui avait été menée par le Sénat sur le crime organisé, et on fait les mêmes conclusions qu'eux. La seule différence, c'est qu'on a 2 propositions différentes, parce qu'on propose un changement de paradigme que les sénateurs eux-mêmes ont posé au sein de la commission d'enquête, mais n'ont pas voulu mettre en proposition, parce qu'ils ont compris que c'était parfois compliqué. Sauf que l'opinion française est dans une démarche de « si ça ne fonctionne pas, trouvons d'autres solutions ». Et à partir du moment où un Français sur deux a déjà consommé du cannabis, on peut se poser des questions quand même sur la manière dont on traite le sujet dans notre pays. Et au-delà de ça, si on ne change pas de paradigme aujourd'hui, et qu'on ne s'autorise pas à faire autrement, est-ce qu'on va continuer à avoir la même folie de se dire qu'on continue à mettre plus d'argent, plus de moyens pour nos agents de police et les entendre nous dire, ce que je veux, tiens qu'à me le préciser, et je l'ai dit à chaque fois, nos policiers, nos gendarmes, nos douaniers et nos magistrats font un travail formidable. Mais à chaque fois, ils nous disent la même chose. On a la sensation de vider l'océan à la petite cuillère. Ça en dit long, en fait, sur la qualité de leur travail et sur le fait que parfois, ils n'en peuvent plus et qu'ils se disent que ce qu'ils font ne sert strictement à rien. Et ça, il faut savoir l'entendre. Et malheureusement, on ne l'écoute pas assez. Et la majorité d'entre eux ne sont pas simplement des mauvais agents de police. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais quand on mobilise, par exemple, 1000 agents à Marseille, qu'on renforce dans les quartiers, dans ce qu'on appelait les places nettes XXL, et sur ces 1000 agents, on récupère l'équivalent de, je sais pas, 3000 kilos, même pas. Je crois que c'est 3 grammes par agent. C'est rien du tout. Si, c'est 300 kilos. C'est rien du tout. Donc en gros, on a l'impression qu'ils font un travail formidable. On a un travail de restauration des valeurs de la République sur certains territoires. Et puis ce n'est pas que les quartiers populaires, parce que Verdun est la plaque tournante de l'héroïne, et Verdun n'est pas un quartier populaire. C'est un peu partout sur nos territoires. Mais la réalité, c'est qu'on est dépassé avec des personnes qui sont des fois installées à Dubaï et qui ont des petites mains sur notre territoire. Alors oui, on a un ou deux gros bonnets. D'ailleurs, un qui s'est évadé et qui a été rattrapé par la police et qui a fait un... Et le service de renseignement fait un travail formidable sur le sujet-là. Comme les services de renseignement français et les gendarmes ont pu casser un système mondial de téléphones cryptés, c'est à valoriser, c'est la France qui l'a fait. C'est pas les Américains avec leur super système de la CIA, de la FBI et de la DEA. C'est la gendarmerie française. Donc on a de quoi travailler correctement, mais il faut donner les bons outils. Et quand on se retrouve au tribunal judiciaire de Paris, à ce qu'on appelle la JUNELCO, qui est la juridiction spécialisée de lutte contre le crime organisé et la lutte contre les stupéfiants, et qu'on nous explique que les assistants de justice qui accompagnent les juges, qui permettent justement de vérifier les données qui sont données par la gendarmerie et la police, qui permettent de pouvoir suivre des personnes parce qu'elles sont sous enquête, de remonter sur des logiciels particuliers ou des messages cryptés, et qu'on ne leur donne pas les licences qui coûtent 200 000 euros. On se dit qu'il y a un autre problème. C'est qu'en fait, on ne se donne pas les bons moyens au bon endroit et qu'on veut faire que de l'affichage et de la communication. Et c'est ce que je reproche d'ailleurs au ministre de l'Intérieur aujourd'hui, qui fait beaucoup de communication et qui fait peur à une bonne partie de la population française. Et on donne la sensation qu'on n'y arrivera jamais. Mais c'est pas vrai, on peut y arriver. Je rappelle juste qu'en 2016, le budget de lutte contre le stupéfiant, c'est 500 millions d'euros par an. Aujourd'hui, sur le chiffre de 2024, on est à 1,3 milliard. On a plus que doublé le budget. Et là, on va le tripler. Et pour autant, on a toujours autant de places de deal, on a toujours autant de narcotrafiquants, on a toujours autant de consommateurs, et on a même plus de consommation qu'avant. Est-ce que cette politique fonctionne ? Je vous laisse mettre de la réflexion.
Justement, à propos d'affichage du ministre de l'Intérieur, il y a 3 semaines, il y a eu toute une journée de campagne, je dirais, sur le terrain, je suppose que vous étiez au courant, sur la lutte et la prévention de la délinquance. Et donc il y a eu un gros affichage dans le quartier. J'étais à Mézières-les-Metz, le quartier était rempli de représentants des forces de l'ordre. C'est de l'affichage, réellement ?
Est-ce qu'en envoyant plein d'agents de police et de gendarmes sur une seule journée, c'est comme ça qu'on lutte contre la délinquance ? Je suis pas sûr. C'est un travail de longue haleine. Et d'ailleurs, les chiffres montrent une chose, c'est qu'il y a de moins en moins de délinquants dans notre pays, que les chiffres de la délinquance juvénile elle n'a jamais été aussi basse que sur les 20 dernières années. Mais on aime bien en faire trop. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société hyper médiatisée et que malheureusement, on a certains drames qui sont plus durs que ce que nous avons pu connaître. Et en même temps, si on regarde dans le temps, c'est pas beaucoup plus dur. Il y a toujours eu malheureusement des drames qui ont frappé la société. On a des faits divers qui sont parfois exceptionnels. Alors c'est sûr que quand on voit que certains enfants perdent la vie parce qu'on a des personnes mal intentionnées ou qui ont un problème psychologique ou psychiatrique, ça fait mal à tout le monde. Mais ça prouve bien aussi qu'il y a un problème d'accompagnement. On n'en serait pas là si les personnes étaient bien accompagnées. Comme on fait un débat ces derniers temps sur les OQTF et sur les expulsions de personnes étrangères, et comme je dis au ministre de l'Intérieur, vous êtes responsable de cette expulsion. Donc c'est bien beau d'aller sur les plateaux télé expliquer que c'est pas de votre faute alors qu'il avait une OQTF. Je rappelle, une obligation de quitter le territoire français est une mesure administrative qui est remise à une personne à qui on dit qu'on ne renouvelle pas son titre de séjour dans notre pays. Donc elle est souvent automatisée. Sur ce document, il est écrit que la personne doit quitter le territoire dans les 30 jours. Si elle ne l'a pas fait, l'obligation de quitter le territoire français, donc l'OQTF, est valable pendant 3 ans. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si la personne, au bout d'un moment, n'est pas mise en centre de rétention administrative pour être expulsée parce qu'il est un danger pour la République, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. C'est pas la responsabilité de la personne qui a une OQTF. Une fois qu'on lui a remis son OQTF, on lui fait confiance. On lui dit, vous avez 30 jours. Mais c'est une mesure administrative, elle n'est pas coercitive. Donc à partir de là, ça ne peut pas fonctionner. Et à force d'aller sur les plateaux télé, expliquer que la personne a commis un fait divers très grave, qu'il a tué quelqu'un, ou qu'il a essayé de... Il a commis des troubles à l'ordre public graves, mais qu'il n'a pas été expulsé, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. C'est la responsabilité de personne d'autre. Et je ne comprends pas qu'on puisse aller sur les plateaux, dire « Oui, mais je ne comprends pas, cette personne avait une OQTF, mais elle est encore dans notre pays. » Faites votre travail, monsieur le ministre. C'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fait peur aux Français. Et plus on va faire peur aux Français, plus on va accepter de restreindre nos libertés fondamentales. Et ça, je crois que pour la majorité d'entre nous, il en est hors de question. Et plus on fait peur aux Français, moins il faut s'étonner qu'ils s'extrémisent.
En l'occurrence, là, c'était sur un quartier à Mézières. Donc, il y avait le maire de Mézières, forcément. Il y avait le sous-préfet. Il y avait le procureur, il y avait le colonel de gendarmerie, et on a fait tout un tour du quartier à pied, qui était quadrillé par la police, et les gens, ils ne savaient pas exactement ce qui se passait. Et je voyais dans le regard qu'il y avait de l'incompréhension, qu'est-ce qui se passe ? C'était réellement de l'affichage.
Le problème, c'est que ça crée de l'incompréhension et de la peur, et qu'on a la sensation qu'on est en train de rechercher quelqu'un de dangereux, alors que c'était juste une opération de communication. Ouais. Et je pense que la prévention de la délinquance ne se fait pas comme ça, parce que la prévention de la délinquance, c'est la prise en charge de quelqu'un qui est mineur, d'ailleurs, qu'on accompagne socialement, qu'on vérifie qu'il va bien à l'école, qu'il a potentiellement une formation, qu'il est capable de trouver un emploi, et qu'il s'insère correctement dans la société. Ça, c'est prévenir la délinquance. Et qu'au premier méfait, quand il se retrouve devant un juge ou devant un accompagnateur social, il puisse être pris en charge et puisse être détaché d'un environnement qui est malsain pour lui. Ça, c'est de la prévention de la délinquance. Et c'est ce qui est prévu par les textes, c'est ce qui est prévu par les budgets. Ce n'est pas de s'afficher en disant on va faire des opérations place nette. C'est un peu l'équivalent d'une opération place nette. Et je ne vois pas en quoi cela a réglé le problème de fond. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le politique n'est pas un communicant. Le politique ou le haut fonctionnaire est quelqu'un qui est au service de la population, qui doit apporter des réponses, mais qui n'est pas là pour entretenir sa place personnelle. Et c'est ce qui me pose problème partout. Et on a ça à tous les niveaux, parce qu'aujourd'hui, on a la sensation que si on ne communique pas par des grandes opérations, ça ne marche pas. Mais plus on communique par des grandes opérations, plus on effraie la population.
Et en l'occurrence, le maire de Mézières, lui, était plus inquiet de ramener un petit peu de paix sociale vis-à-vis des habitants qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, passer 18 heures dans ce quartier-là. Il fallait qu'ils demandent autorisation à des petits dealers qui tiennent les cages escaliers.
Je l'entends pleinement. Mais en même temps, est-ce que ça a réglé le problème avec cette opération d'affichage? La réponse est non. Il faut faire autrement. Et il n'est pas normal aujourd'hui que dans notre pays, on n'ait pas la liberté de circulation parce qu'on a une minorité de personnes qui a décidé qu'on ne pouvait pas sortir de chez soi. Non, ça, ce n'était pas possible non plus. C'est aussi le rôle de la police municipale de Mézières, c'est aussi le rôle de la police nationale. Mais ça, c'est du quotidien. C'est pour ça que moi, tant que cette proposition, d'ailleurs, que nous avons fait sur le rapport de lutte contre le narcotrafic, c'est de renforcer la police de proximité. Je rappelle que quand on avait une police de proximité, on récupérait plus d'informations, les quartiers étaient un peu plus calmes, et que je ne comprends toujours pas pourquoi celle-ci a été retirée. Alors, on nous dit qu'elle a été repensée, ce qui n'est pas faux, mais aujourd'hui, c'est bien d'avoir des brigades de sûreté territoriale, mais elles ne sont pas là tout le temps. Il faut avoir des agents en permanence, il faut être à l'écoute, et puis quand il y a des plaintes, quand il y a des dysfonctionnements, il faut avoir une réponse. Mais c'est une réponse répressive et sociale. Quand on a des gamins de 14 ans aujourd'hui, qui sont là, parfois armés avec des couteaux, du moins des armes blanches, ou alors des armes plutôt qui ressemblent à des calibres 9 mm ou autres, comment ce gamin de 14 ans a eu son arme? Comment a-t-il été formé à utiliser cette arme, et qui l'a mis là? Je crois pas qu'un gamin de 14 ans, aujourd'hui, ça décide tout seul de sortir de chez lui avec une arme et de se mettre en bas d'un immeuble et de se dire « Moi, je vais tenir la place de deal. » Ça, ça marche pas. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un problème aujourd'hui, c'est que la communication ne permet plus de réfléchir. Et moi, je demande juste une chose, c'est qu'on se mette un peu à réfléchir. Et c'est pas du laxisme, c'est pas de l'excuse, c'est une réalité prouvée par les différents spécialistes du sujet, qu'ils soient psychothérapeutes, psychiatres, travailleurs sociaux, parce qu'ils le voient au quotidien. Et un gamin, aujourd'hui, ne fait que ce qu'un adulte lui demande de faire.
Même le colonel de gendarmerie nous a avoué qu'ils avaient trouvé, presque par hasard, 1,8 kg de résine de cannabis dans une voiture qui stationnait là, avec de fausses plaques, mais sans savoir à qui elle appartenait.
Je pense que les renseignements étaient déjà au courant avant, mais ça permet de valoriser l'opération.
Ben justement, l'opération montrait qu'il fallait faire un croisement entre les collectivités locales, notamment les mairies, la préfecture, forcément, le parquet, forcément, mais aussi les bailleurs sociaux et les opérateurs de transport public.
Je pense qu'on mélange tout. Aujourd'hui, chacun a sa responsabilité. La sûreté publique, elle est garantie par le maire en tant que premier magistrat de la ville et agent de police judiciaire, officier de police judiciaire. Elle est garantie par les gendarmes et la police au niveau national, et elle est garantie aussi par la police municipale. Le bailleur social, à part garantir que l'environnement est sain et adapté, ce qu'on peut rappeler sur la première des sécurités, ça veut dire des portes qui ferment, des fenêtres qui ferment bien et des personnes qui ne sont pas en danger parce que le matériel n'est pas adapté, je ne vois pas quel rôle il va jouer. On ne va pas mettre des agents de sécurité devant les blocs d'immeubles. D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'ils pourraient changer en mettant des agents de sécurité, parce qu'ils vont se faire maltraiter plus qu'autre chose. Il faut qu'on apaise un peu le débat. Il faut absolument qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse. Alors chacun aura un rôle à jouer, même les transporteurs. Mais ils ne sont pas responsables de ce qu'il se passe. Eux ne sont que des opérateurs, qu'ils soient un opérateur de mobilité ou un opérateur de logement. Son rôle, c'est de garantir un logement digne et décent et d'apporter une réponse pour l'autre au niveau de la mobilité, d'un transport qui arrive à l'heure, qui est adéquat à la population, à la fréquence et à la population en nombre qui est présent, c'est tout. Et après, la sécurité, ils la garantissent à l'intérieur, mais c'est un travail qui est organisé par tout le monde. On a tous un rôle à jouer. C'est pas simplement les opérateurs. On est tous capables, nous, en tant que citoyens, d'avoir un rôle à jouer, de dénoncer parfois des méfaits, d'en protéger quand il y a besoin de protéger. Pendant des années, on a dit oui, bon, on entend des cris chez la voisine, bah oui, on n'osait pas dénoncer les femmes qui se faisaient violenter. On n'osait pas dénoncer des enfants qui avaient été violentés, qui avaient été abusés sexuellement. Ben regardez où on en est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on se pose la question de pourquoi on ne l'a jamais fait. Reprenons juste notre responsabilité de citoyen quand on constate qu'il y a des faits graves qui peuvent être répréhensibles par la loi. Notre responsabilité de citoyen, et d'ailleurs je rappelle que pour les élus et pour les fonctionnaires, ça s'appelle l'article 40 auprès du procureur de la République, et ça permet à chacun, non pas d'être des délateurs, mais d'être dans la protection des autres. Et on ne le fait pas pour nuire à qui que ce soit, on fait pour protéger les autres. Moi je ne suis pas quelqu'un qui pousse à la délation, mais quand j'entends, je ne sais pas, des cris chez mes voisins d'une femme ou d'un enfant qui a l'air d'être sous les coups ou alors sous une forme de violence, si une fois, deux fois, je me rends compte et je constate par moi-même que la personne a été violentée, je suis dans l'obligation de prévenir les forces de police. Pourquoi on ne le fait pas? Et après, on se retrouve avec des faits graves où on entend des personnes à la télé dire « Ah oui, il était gentil, mais de temps en temps, c'est vrai qu'on a entendu que vous n'avez rien fait. Ah ben non, vous savez, ce n'est pas mes affaires. » Mais oui, ce n'est pas vos affaires. Mais ne vous étonnez pas derrière de la qualité néfaste et de la qualité de la violence et de la barbarie que nous pouvons voir. Parce que la personne, on l'a laissé faire. C'est aussi une réalité. Donc on a tous un rôle à jouer. Et il est certain qu'aujourd'hui, on a vu dans certains quartiers des mamans se mobiliser. On l'a vu lors des émeutes de juin à juillet dernier, que les mamans ont permis parfois d'apaiser les quartiers. Parce que tout le monde a un rôle à jouer. Mais il faut qu'on les écoute aussi, ces personnes. Et moi, je sais que pour y avoir grandi au quartier de Metz-Borny et pour y passer encore de temps en temps, on me dit que parfois on n'est pas écouté. Parce que le politique, il pense... Mais ils n'écoutent pas. Et on a besoin aujourd'hui d'écouter les personnes qui vivent dans ces endroits-là, d'écouter la détresse de ces familles, parce qu'il y a une détresse et que parfois elles sont dépassées, non pas parce qu'elles n'arrivent pas à gérer leur enfant, mais parce que des personnes extérieures ont un impact et une influence tellement néfaste sur ces enfants que les parents sont dépassés. Et un parent qui est dépassé, bah, c'est pas de sa faute. On peut tous être en tant que parent dépassé, qu'on soit dans la ruralité, qu'on soit dans un quartier populaire, qu'on soit dans un centre-ville, qu'on soit issu d'une famille riche ou d'une famille pauvre, de l'immigration ou 100% française. La réalité, c'est qu'on peut tous être dépassés. Et je rappelle que pendant des années, on était content de regarder des émissions de télé où on voyait des parents être dépassés par leurs enfants et qu'on essayait de les remettre dans le droit chemin. C'est la même chose. Mais ça passe pas que par le répressif. Ça passe par un accompagnement social. Et c'est là qu'on peut se dire, est-ce que donner des aides sociales suffit à... Non, la réponse c'est que l'accompagnement social, c'est des fois un échange entre humains. Et on a besoin d'être accompagné en parentalité. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est parent à 100% et qu'on sait faire. Et vu que les familles sont de plus en plus explosées, qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, qu'on a des familles éloignées du cœur familial, à partir de là, on a tous ces impacts négatifs aussi.
Rapidement, avant de changer de sujet, vos 60 propositions, comment elles ont été perçues par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, messieurs Retailleau et Darmanin?
Bon, disons qu'à part dépénalisation et légalisation, le reste était bienvenu. Voilà, je ne vais pas faire plus parce que ça s'est entendu et qu'on a dû apporter des réponses. La seule chose qui m'agace aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucun argument factuel pour contrer les propositions que nous avons faites. C'est bien beau d'expliquer, oui, mais les petits-enfants, les délinquants, la protection des mineurs. On ne dit pas l'inverse, au contraire. On dit « il faut protéger les mineurs », on dit « il faut faire plus de prévention », on dit « il faut mieux accompagner ». Donc à partir du moment où moi je n'ai pas d'argument factuel pour m'expliquer que je me trompe, je me dis que j'ai peut-être raison.
Sans vous demander de commenter sur le fond, mais plutôt sur la forme, on a eu une séquence un peu terrible sur le qui s'est passé à Bétarame avec le Premier ministre. L'image du Premier ministre, on a quand même souffert, et c'est un petit peu dommage pour la suite des dossiers qu'il a menés réellement.
Je pense que le Premier ministre est attaqué, mais quand on regarde dans le détail... Il y a tellement de personnes qui ont une part de responsabilité que je ne suis pas certain que le Premier ministre tout seul soit responsable de quoi que ce soit. C'est un enchaînement d'informations qui est en train d'arriver, qui nous démontre que pendant des années, on l'a laissé faire dans beaucoup de lycées privés et catholiques, ou collèges, ou écoles primaires. Et là, il y a un débat de fond. Et quand on voit des témoignages de personnes qui nous expliquent que quand vous étiez paupérisé, vous étiez maltraité, quand vous étiez riche ou de famille importante, on vous laissait tranquille, il y a un vrai problème. Ces enquêtes-là auraient dû être ouvertes dès les premières dénonciations. Malheureusement, on a vu qu'il y a Bétarame et il y a d'autres écoles qui sont concernées. Et on a la sensation que tout le monde le savait. Mais pourtant, personne n'a rien fait. Ça veut dire qu'il y a un enchaînement de maires, de conseils départementaux, de conseils régionaux, de ministres qui, depuis les années 80, ont été informés et n'ont peut-être pas fait le travail correctement. Et jeter l'opprobre sur un seul homme, parce qu'aujourd'hui, il est Premier ministre, comme si c'était sa propre seule et unique responsabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, on ne réfléchit plus. Il a peut-être une part de responsabilité, il a peut-être été informé, ou comme, je rappelle juste que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était différent. C'est une autre société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter ce genre de choses. Et encore, malheureusement, ça existe encore. D'ailleurs, on a eu un rapport, il a été mis en place une commission particulière qui s'appelle la Civise, qui démontrait aussi toutes ces agressions sexuelles dans le milieu de l'Église. Donc, on est au courant maintenant, mais pendant des années, on a dit à des enfants, taisez-vous. On a dit à tes enfants, ça n'est jamais arrivé, tu l'as inventé. Aujourd'hui, on dit à des adultes qui ont été ces enfants-là, on est désolé, on ne vous a pas écouté, on ne vous a pas pris au sérieux, et on cherche le bouc émissaire. Mais il n'y a pas un bouc émissaire, c'est un enchaînement de responsabilités. C'est un enchaînement de personnalités qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Donc à partir de là, tout mettre sur le dos du Premier ministre, je pense que c'est une erreur. Après, à titre personnel, je pense qu'il aurait dû faire amende honorable, et de potentiellement de s'excuser, et de dire qu'il avait peut-être une part de responsabilité, mais qu'il n'était pas seul, l'unique, et qu'aujourd'hui, il ferait tout ce qu'il faut en tant que Premier ministre pour apporter les réponses qu'on doit apporter à la société française.
Sujet complètement différent, l'Europe, l'Ukraine, la défense de l'Europe.
La défense de l'Europe, la défense de la France. Quand on voit, je crois que les images que nous avons vues dans le bureau ovale ont choqué l'ensemble de la société, et au-delà de la société française, ça va au-delà de l'Ukraine. Aujourd'hui, quand on voit la volonté de réarmement de Vladimir Poutine, c'est pas simplement pour envahir l'Ukraine. Il a d'autres ambitions, et on le sait très bien, il a des ambitions stratégiques sur les pays baltes, il a parlé de la Moldavie, il a parlé de la Roumanie, et d'autres territoires. Je rappelle qu'en 2004, c'était la Géorgie. Donc, il a une volonté d'expansion. Et quand on fait le choix, en plus, d'être accompagné par un dictateur de la Corée du Nord pour avoir 100 000 agents militaires complémentaires qu'on envoie sur le front ukrainien, ça démontre bien qu'il a une volonté d'expansion et une forme de création d'une nouvelle alliance avec des pays que je crois on ne peut pas qualifier de démocratie. Donc il y a une réalité qu'on doit prendre en considération. À partir du moment où les Américains, via Trump, se désengagent de la protection européenne de l'OTAN, qui était quand même la plus belle construction après la Deuxième Guerre mondiale pour garantir la paix dans le monde et en Europe, parce que c'est souvent les superpuissances qui se font la guerre. Même si elles se font parfois la guerre, il y a eu la guerre froide, il y a eu des guerres indirectes en Afrique. D'ailleurs, je rappelle que la Russie, ces derniers temps, a fait en sorte de mettre à mal la France au Mali, en Centrafrique et ailleurs, et ça a été démontré enfin qu'il y avait une ingérence étrangère, alors que beaucoup de responsables politiques français disaient que c'était la faute d'Emmanuel Macron, mais ils n'avaient aucune part de responsabilité. Maintenant, c'est démontré parce que nos militaires n'ont fait que leur travail, bien leur travail, et on leur a craché dessus comme s'ils avaient commis des méfaits graves alors que ce n'est pas vrai. Et ça a été démontré par des journalistes qui ont fini par annoncer qu'en fait, c'était enrôlé par la Russie et par Wagner, financé pour faire de la désinformation, pour que la Russie prenne place et s'enrichisse sur le dos des populations locales.
Donc ça avait commencé en 2017.
Ça avait commencé avant, et c'est comme ça que ça a pu se mettre en place sans problème. Et on est dans une situation aujourd'hui où, si on abandonne l'Ukraine, on a un vrai risque pour l'ensemble du bloc européen. Et vu que les Américains nous lâchent, que l'OTAN n'apportera plus cette dissuasion nucléaire qui nous permet de protéger. Je veux dire, aujourd'hui, si on ne fait plus la guerre et qu'on vit plus ou moins en paix, c'est parce qu'il y a la dissuasion nucléaire. Et quand on entend le ministre de la Défense russe dire que Emmanuel Macron provoque potentiellement nos guerres, ce n'est pas vrai. Le président de la République ne propose qu'une seule chose. Garantir la paix sur le territoire européen et qu'aucun autre pays ne puisse être attaqué. Donc, on propose, et ça paraît cohérent, que le parapluie français puisse s'ouvrir sur les autres pays européens. C'est stratégique. Nos alliés sont des puissances qu'on doit protéger. Parce que si on ne protège pas les Allemands, on ne protège pas les pays baltes, c'est aussi un risque énorme pour la France. On ne se rend pas compte de l'impact que ça va en termes d'inflation, de développement industriel, de développement en termes de nouvelles technologies. On a tout à perdre dans cette guerre. Parce qu'elle n'est pas que sur le front de l'Ukraine. Elle est sur l'ingérence étrangère par des Américains et des Russes aujourd'hui sur les réseaux X, Facebook et autres. D'ailleurs, Elon Musk assume pleinement de soutenir des candidats. Depuis quand on autorise que des personnes, des représentants de pays américains, des représentants du pays des États-Unis puissent prendre position sur qui va être potentiellement le bon ou mauvais candidat à la présidentielle française ou allemande? On l'a vu en soutenant l'AFD, donc l'extrême droite.
C'est plutôt le bon interlocuteur après.
Alors ça, c'est des bons interlocuteurs pour eux, pour être sûr de ne rien faire et de propager ce sentiment d'expansion. Et puis, quand on entend Donald Trump dire que le Canada ou le Groenland doivent être annexés, c'est effrayant. Donc ça veut dire qu'il est dans la même logique que Vladimir Poutine aujourd'hui. Et si nous, on ne se protège pas, étant donné qu'on a certains intérêts stratégiques aussi avec les États-Unis ou avec la Chine, on doit se protéger. Et donc oui, quand le président de la République fait le discours qu'il a fait, il ne le fait pas pour faire peur aux Français. Il le fait pour rassurer et dire la vérité. Parce que c'est son rôle de dire la vérité. Si demain, on continue à croire Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en nous expliquant que la paix, ça se fait, mais c'est la faute de Volodymyr Zelensky, Je crois qu'on fait une erreur fondamentale. Volodymyr Zelensky n'a jamais rien fait. Quand on accepte que des personnes représentant la Russie aillent sur les plateaux de CNews pour nous expliquer que c'est les Ukrainiens qui bombardaient le Donbass et qu'on n'a pas eu le choix que d'intervenir, je crois qu'il y a un problème. Et je crois qu'ici, à Metz, on a des témoins, des Ukrainiens, des femmes ukrainiennes, des enfants qui ont vécu l'horreur en Ukraine. Allons leur demander si c'est l'Ukraine qui a menacé la Russie, si c'est les Ukrainiens qui bombardaient des Ukrainiens, ou si c'est les Russes depuis le départ, avec des ingérences étrangères, avec Wagner, justement, qui ont fait ce genre de choses. Et je crois qu'on est en train de réécrire l'histoire, et la dernière fois qu'on a réécrit l'histoire, malheureusement, on a connu la Deuxième Guerre mondiale. Et la première fois qu'on l'avait réécrite, c'était la Première Guerre mondiale. Nous, on ne veut pas de Troisième Guerre mondiale, je crois que personne n'en veut, bien au contraire. Peut-être à part des Russes, et peut-être une partie des Américains qui ont besoin d'expansion. Mais la réalité, c'est que nous, on veut juste protéger la France, protéger nos alliés et garantir la paix dans la durée. Et que le président, quand il dit « on enverra des troupes en Ukraine », c'est ce qu'on fait déjà sur d'autres territoires de guerre. Ça veut dire garantir la paix. C'est ce qu'on a fait dans les Balkans, dans les années 90. C'est ce qu'on fait au Liban. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur certains territoires africains et même ailleurs. Et que je rappelle une seule chose pour conclure sur ce sujet-là. On doit être fiers d'être français aujourd'hui. On est la première puissance militaire d'Europe. On est dans le top 3 des puissances militaires mondiales. On est la deuxième puissance maritime du monde. Et on est une puissance nucléaire. On est la première d'Europe. Et on est la troisième après les États-Unis et la Russie. On doit avoir cette fierté de se dire que la France est en capacité de protéger l'ensemble de l'Union européenne, que la France est capable de se défendre et de défendre ses alliés et ses amis. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des politiques français qui tirent contre la France et qui ne se rendent pas compte, c'est qu'ils font peur à la population qui aujourd'hui a besoin d'être apaisée, d'être rassurée. Et là, on va lancer un grand plan stratégique industriel, un plan de défense et un plan sur les nouvelles technologies qui vont permettre de nous détacher et des États-Unis et de la Chine et d'être plus autonome. Et je crois que c'est ce que tout le monde souhaite aujourd'hui quand on parle de souveraineté. On est en plein dedans. Et je rappelle que depuis 2017, on est les premiers à le dire. Il y a eu le discours de la Sorbonne par le président de la République. On nous a expliqué qu'il allait trop loin, qu'il disait n'importe quoi. Tout ce qu'il a dit est en train de se réaliser.
Donc l'ultime question, ce plan c'est bien, mais comment on va le financer? Parce que déjà on a perdu 8 ans, 9 ans.
Non, parce que la France a créé une loi de programmation militaire qui a renforcé en fait les investissements en défense, en cyberdéfense et en défense. On a lancé aussi la construction de sous-marins, de porte-avions, on a lancé une nouvelle gamme d'avions, il y a pas mal de choses. Donc la France a beaucoup investi sur le sujet, mais l'Union européenne par contre a pris du retard.
Voilà.
Même si on a créé ce QG européen qui a été renforcé en termes de défense, on a commencé à réfléchir malheureusement sur l'industrie de défense européenne. Là, on ira plus loin parce qu'il y a un plan d'investissement de 800 milliards qui est proposé par la Commission européenne, qui n'est pas pour créer une armée, mais pour investir dans des investissements stratégiques de défense, d'industrie de défense. Et la première industrie de défense aujourd'hui en Europe et la deuxième au monde, c'est la France. Donc nous, on a tout à y gagner. Et on va faire en sorte d'accompagner les pays européens sur cette démarche-là. Les Allemands, ils annoncent 200 milliards. Les Italiens annoncent aussi investir en renforçant. Nous, on a augmenté le budget de la défense depuis 2017. Au moins en France. Là, on veut passer à 100 milliards, on est à peu près à 65 milliards. C'est déjà énorme, mais ça ne suffit pas, parce qu'on a cru pendant longtemps que la guerre ne se jouerait plus de la même façon, mais on prouve que ça fonctionne encore de la même manière. Et puis, il faut investir dans des drones, il faut investir sur des protections par satellite, parce qu'on a besoin, si Internet est coupé demain, on a besoin d'avoir des communications qui passent par satellite. Donc, il y a un ensemble de sujets qui sont en train d'être mis en place, et croit-on qu'on va pouvoir continuer à croire que les Américains vont nous protéger? La réponse est non. Et la réponse est claire, nette, précise, par Trump, par Musk et tous les acolytes qui les accompagnent, qui aujourd'hui nous ont dit « L'Europe, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi protéger un continent avec 500 millions de personnes quand nous, on est un pays de 350 millions ?» Et qui nous font croire qu'en plus, ils s'endettent à cause de nous, ce qui n'est pas vrai du tout. Et donc maintenant, on doit se protéger face aux Américains, face aux Russes et en même temps indirectement face aux Chinois qui font une guerre commerciale en Océanie et avec le reste du monde. Et si on n'est pas en capacité de revaloriser des industries stratégiques qui en plus vont créer des richesses dans notre pays, alors là il est certain d'une chose, c'est qu'on aura tout perdu. Et ce discours-là, on le martèle depuis un certain temps, on nous explique qu'on se trompe, on nous a expliqué que nous mentions, parce que soi-disant Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon avaient d'autres réponses. La réalité c'est que non, et nous on est dépendants de personne. Et la France est capable d'être suffisante, autosuffisante, en termes de défense, en termes industriels, mais pour ça, il va falloir encore investir. Et c'est un effort, tous ensemble, de la nation. Et ce n'est pas qu'un investissement financier, c'est un investissement humain, c'est un investissement de réflexion à l'avenir que nous voulons tous ensemble. Bien entendu que la guerre fait peur à tout le monde. Moi, j'ai 37 ans, je ne connais pas la guerre. J'ai les histoires racontées par mes grands-parents qui ont fui des pays en guerre. J'ai vu des images à la télé comme plein de gens. J'ai lu des livres d'histoire. Je vois à quel point ça peut choquer, ça peut heurter, ça peut détruire. Mais je ne sais pas ce que c'est que la guerre. Et je n'ai pas envie de faire la guerre. Et personne ne veut faire la guerre. Mais si aujourd'hui on n'est pas capable de dire que quoi qu'il arrive, on sera capable de nous défendre, et on a une dissuasion qui est exceptionnelle pour ne pas être attaqué, alors on sera en guerre. Donc on est obligé de se renforcer d'un point de vue défense, et en temps d'avoir des investissements stratégiques, et on verra comment on fait d'un point de vue financier. Il y a une réflexion menée par le gouvernement, on aura peut-être des réponses le mois prochain, là aujourd'hui je ne les ai pas.
Alors, je pensais une double inquiétude aussi de la part des Français, c'est et ça aura un impact forcément sur la dette. Et on a bien vu qu'il y avait des solutions où on va déshabiller Paul pour habiller Jacques, notamment Madame van der Leyen sur le plan de cohésion.
Alors c'est pas l'idée aujourd'hui. Alors c'est une réflexion qui est menée au niveau européen, mais il y a aussi les avoirs russes qui aujourd'hui n'ont pas été saisis, mais qui sont gelés, avec lesquels on peut travailler, on peut les mettre en garantie sur des prêts bancaires, on peut aussi faire tourner la planche à billets comme le font les Américains. Il y a cette réflexion qui peut être menée, mais il y a des risques d'inflation. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne doit pas remettre en question notre système social, notre modèle économique, mais on doit investir en défense. Et on est indirectement en temps de guerre. On a une guerre commerciale, on a une guerre d'ingérence politique et démocratique, et du moins diplomatique, et on a aussi une réalité qu'on doit absolument dire aux Français, c'est que tout ça, c'est des investissements pour nos enfants, pour continuer justement à garantir la paix dans le monde.
Je vous remercie.
Merci à vous.
C'était Christophe Révaux pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.